Raconte-moi une histoire.
Salut à vous toutes, salut à vous tous, je suis Doé et je vous raconte aujourd'hui une histoire. Nous continuons notre série autour des légendes du roi Arthur et aujourd'hui l'épisode conté s'intitule Iseult le rosier et la vigne. Alors le monde était vaste et pour la princesse comme le chevalier l'honneur une étroite prison. Ainsi Iseult à la chevelure d'or princesse d'Irlande devait rester la captive du dragon. Avant cela la bête réclamait chaque année des jeunes gens à dévorer. Pour mettre fin à cette abomination, la reine avait négocié. Elle donnait son enfant en échange, le monstre renonçait à son tribut annuel. La mère avait donc consenti à ce sacrifice pour sauver son peuple et la fille avait accepté son sort, car tel était son devoir. Enfermée au sommet d'une tour, admirer la mer était la seule joie d'Iseult, mais dès qu'elle baissait le regard, elle tombait sur son horrible gardien qui jamais ne s'éloignait. Un soir, elle parvint à accrocher un de ses cheveux à la patte d'une hirondelle. Elle ne possédait rien pour écrire et n'avait pas d'autre moyen pour demander secours. Alors que l'oiseau s'élançait dans le crépuscule, elle perdit tout espoir. Comment pourrait-on interpréter un simple cheveu comme un appel à l'aide ? Elle sombra dans une profonde mélancolie. Même l'idée que sa captivité évitait à des innocents d'être dévorés ne l'apaisait plus. Pourtant, un matin, aux lueurs de l'aube, un bateau accosta sur la grève. Un guerrier en armure était à la barre. Sans hésitation, il se précipita vers le dragon, l'épée au clair. La bête l'accueillit avec un jet de flamme ardente. L'homme ne recula pas, protégé du feu par son bouclier. Il s'avança jusque sous le ventre du monstre et le tua d'un seul coup. Ainsi, Tristan libéra Iseult. Elle se troubla de sa beauté, il se troubla autant de la sienne. Malgré tout, ils ne montrèrent rien de leurs émois et le chevalier se contenta de conduire la princesse auprès de sa mère. Cette dernière demanda pourquoi il avait défié si courageusement le dragon et Tristan expliqua « Reine, j'ai promis à mon oncle Marc, souverain de Cornouailles, de trouver le de la dame à la chevelure d'or. Pourquoi Marc cherche-t-il ma fille ? Il a découvert un de ses cheveux accroché à la patte d'une hirondelle et s'est juré de la prendre pour femme, elle et nulle autre. » À ces mots, la gorge du chevalier se noua. Il avait fait le vœu de ramener Iseult à son oncle, il ne pouvait s'éprendre d'elle, c'était là une question d'honneur. De son côté, la reine se réjouissait doublement. Non seulement sa fille était libre, mais en plus un souverain qui ferait un puissant allié désirait l'épouser. Elle consentit aussitôt à cette union, non sans remarquer la triste mine de la princesse. Elle n'était point promise à son sauveur, mais à un inconnu. « Ne soyez pas malheureuse, lui dit-elle plus tard quand elles furent seules. Votre devoir d'héritière du trône d'Irlande vous impose d'offrir un beau parti au royaume. » Iseult acquiesça. Elle savait tout cela, mais son cœur pleurait de quitter une prison pour une autre. Sa mère ne voulait pas que le mariage échoue. Aussi prépara-t-elle un élixir d'amour. Elle était autant sorcière que reine. Elle confia à la suivante d'Iseult le breuvage afin qu'elle le fasse boire aux époux le jour de leurs noces. Lors de la traversée qui menait la princesse vers son promis, Tristan garda ses distances. Il demeurait à la proue du navire, avare en paroles comme en regard. Iseult ne prit pas ombrage de cette attitude. Elle aussi aurait souffert de passer du temps avec cet homme. Elle l'aimait, mais savait leur union impossible. Pourtant, il se trouva que durant plusieurs jours, leur bateau resta sans avancer, perdu au milieu de la mer, alors que le vent était tombé. Les réserves d'eau s'amenuisaient quand Iseult découvrait le flacon contenant l'élixir d'amour dans les affaires de sa suivante. Elle prit le liquide pour du vin et proposa à Tristan de partager la bouteille pour étancher leur soif. Au moment où la dame de compagnie remarqua la disparition du filtre magique, il était trop tard. L'enchantement redoubla leurs sentiments et, le soir même, Iseult traversa le pont sous la lune pour rejoindre Tristan à la proue. Ce fut la première des deux nuits d'amour que jamais ils passèrent ensemble. Le roi Marche fut ébloui par la beauté de la princesse et admiratif devant le courage et la ténacité dont a fait preuve son neveu. On lança la préparation des noces et tous au château se montraient joyeux à l'attente de l'heureux événement. Tous, sauf Tristan et Iseult. Leur chagrin chaque jour ne faisait que croître. Le vieil homme comprit rapidement de quoi il en retournait. Il lut le désespoir dans le regard de Tristan. Il considérait le jeune homme comme son fils, mais des messagers avaient annoncé partout le mariage. Il ne pouvait plus annuler cette union sans connaître le déshonneur et les moqueries de la part de son peuple. La veille des festivités, la situation était devenue intenable. Iseult était pâle comme une morte, le visage grave et Tristan demeurait muet dans un coin de la grande salle, les yeux rougis. Malgré toute la compréhension dont il avait fait preuve jusque-là, le roi s'énerva. Qu'allait dire ses invités si demain la tristesse écrasait son neveu et sa future épouse ? Sire, ne les blâmez pas, intervint la suivante d'Iseult, ils ne se sont pas responsables de leur état. Elle expliqua alors comment ils avaient bu par méprise le filtre magique. Marche pardonna l'attitude des jeunes gens et les conjura de résister à la tentation. D'ici une année, l'élixir cesserait d'agir et tout rentrerait dans l'ordre. Les années passèrent. Malgré la compréhension du roi Marche, les tourments d'Iseult et Tristan ne s'amenuisèrent en rien. Depuis longtemps, le filtre ne faisait plus d'effet, mais ils n'en demeuraient pas moins épris. Ils évitaient de se trouver seuls ensemble et tâchaient de ne rien montrer des sentiments qu'ils éprouvaient. Pourtant, un soir d'été, laissant son époux endormi, l'amoureuse quitta son lit pour rejoindre l'amoureux. Par un baiser, elle tira du sommeil Tristan, puis sans un mot, saisit sa main pour l'entraîner au dehors, où nul ne pourrait les surprendre. Ils se réfugièrent dans la forêt, et ce fut la seconde nuit d'étreinte que jamais ils partagèrent. Petit matin, le roi s'éveilla et soupçonna aussitôt la vérité. Sans prévenir ses gens, il partit à la recherche des amants. Quand il les découvrit, ils dormaient nus sur un lit de mousse. La première impulsion de Marche fut de les tuer, mais alors qu'il se dressait devant eux, l'épée à la main, sa colère se transforma en tristesse. Comment pouvait-il reprocher de si nobles sentiments à son épouse et à son neveu ? Résigné, il planta sa lame entre les deux corps endormis sans les blesser et se retira. Quand Iseult et Tristan découvrirent l'arme du roi qui les séparait de toute la froideur de son métal, leurs cœurs s'assombrirent. Pleins de honte pour avoir failli à leur serment et pleins de crainte de ce qui les attendait, ils regagnèrent le château. Marche se tenait à la porte. Il laissa entrer son époux mais barra le passage à son neveu. « Je refuse d'avoir à accorder mon pardon une troisième fois. Tristan, je te bannis. » Le jeune chevalier remercia son oncle pour son indulgence et quitta la Cornouaille avant le coucher du soleil. Iseult resta seul, désespéré. Rien ne l'animait plus que d'obtenir des nouvelles de son aimé, même si toujours elle se comportait comme devait le faire une reine. Grâce aux visiteurs et aux ménestrels de passage, elle sut que Tristan avait rejoint la table ronde. Comme il était valeureux, il y brilla à de nombreuses reprises. Il fut fêté, admiré. Arthur l'estimait grandement, et souvent on chanta ses louanges jusqu'à la cour du roi Marche. Malgré ses succès, il nourrissait secrètement le désir de mourir et cherchait toujours le danger dans l'espoir de trouver au combat la délivrance de cette vie douloureuse. Iseult avait bien conscience que son ancien amant poursuivait ce but sinistre. Elle ne le comprenait que trop bien car elle-même ne connaissait nulle joie loin de lui. Un jour, un messager arriva au château avec une lettre de Tristan. Marche redouta d'abord une demande à revenir en Cornouailles, mais il n'en était rien. Mortellement blessé, le chevalier demandait au roi de lui dépêcher son médecin personnel. Cet homme, vénérable, nommé Gaius, était un Romain de grande réputation. Il se disait qu'il avait été le maître de Merlin et lui avait appris beaucoup de ses savoirs. La requête semblait légitime, mais Iseult comprit que ce message lui était indirectement destiné. La nuit même, elle quitta en secret la Cornouaille pour traverser la mer. Elle fit preuve d'une extrême célérité dans son voyage, mais quand elle parvint à Camelot, Tristan agonisait déjà. À peine eut-elle le temps de l'embrasser une dernière fois qu'il rendit l'âme. À peine eut-elle le temps de pleurer sa perte et de maudire le sens du devoir qui toujours les avait obligés à renoncer à leur amour, qu'elle succomba à son tour, terrassée par la tristesse. Le médecin arriva trop tard. Malgré toute sa science, il n'aurait pu empêcher le trépas du premier et le mortel chagrin de la seconde. Il ramena en Cornouaille les corps des deux amants pour les présenter au roi. Le vieux March se lamenta de leur disparition et, bien qu'il se soit promis de ne jamais le faire, leur accorda le pardon pour la troisième fois. Et il ordonna qu'on les enterre côte à côte. Au printemps suivant, un rosier poussa depuis la tombe d'Iseult et un pied de vigne depuis la tombe de Tristan. La tige du premier s'entremêla au bois du second, si bien que nul n'aurait pu les séparer l'un de l'autre. On ne pouvait leur faire dans la mort ce que les questions d'honneur n'avaient cessé de leur imposer dans la vie. Voilà tout de même une très belle histoire, celle de Tristan et Iseult, le rosier et la vigne. On se retrouvera bien la semaine prochaine pour d'autres histoires où l'on continuera les aventures d'Arthur. Allez, ciao, bye bye, c'était Doé qui vous racontait toujours et encore des histoires.